l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le Covid-19 continue à dicter sa loi depuis plus d'un an. Pour cause de pandémie, on reste toujours privé de la possibilité de partir en voyage quand on veut et où on veut. Et on a hâte de retrouver une telle liberté. Après une longue abstinence touristique, les Sud-Coréens sont nombreux à vouloir rattraper une année complètement perdue. Ce qu'ils retiennent de l'an 2020, ce sont des voyages reportés sans cesse et finalement annulés, ainsi que l'ennui qui va avec. Pour cette année, ils ont deux mots d'ordre. À l'improviste et enragé. C'est ce que montre le rapport intitulé Expedia Upgrade 2021, publié par le site de réservation d'hôtels hotel.com. Il se base sur un sondage mené auprès de 12 300 personnes de 15 pays en décembre dernier. Selon ce document, 84% des Sud-Coréens interrogés se sont dit prêts à agir impulsivement plus que jamais cette année, autrement dit à improviser leur voyage. Par expérience, ils savent désormais que tout peut changer même avant le départ prévu. Et 20% prévoient de partir plus souvent pour des séjours plus courts qu'autrefois. Par ailleurs, l'envie de compenser est bien là. Les Sud-Coréens sont plus nombreux à vouloir se chouchouter davantage cette année. Ainsi, 29% des personnes interrogées de nationalité sud-coréenne ont répondu qu'ils réserveraient un restaurant de luxe à l'hôtel, ce qui ne les emballait pas dans le passé, contre 18% de celles d'autres nationalités. Et 28% des Sud-Coréens sondés ont dit qu'ils loueraient une chambre meilleure que d'habitude, contre 23% des personnes interrogées d'autres pays. Par ailleurs, parmi les participants sud-coréens à ce sondage, 23% se sont dit prêts à s'interdire de boire de l'alcool si cela leur permet de partir en voyage, et 22% à renoncer au tabagisme et 21% à d'autres friandises à une telle fin. Cela montre à quel point ils ont envie de faire des escapades. Le temps du désamour serait-il arrivé entre YouTube et les enfants ? Une habitante de Séoul a récemment décidé de ne plus alimenter la chaîne de son fils. Jusque-là, elle l'aidait à se filmer et postait régulièrement des vidéos, parce qu'il voulait le faire. Or, ce passe-temps a commencé à finir par le stresser, voire même l'agacer. Sa mère a alors jugé qu'il était difficile de poursuivre cette activité avec son fils qui s'énerve facilement. Ce qui n'a pas été difficile, car elle avait également l'intime conviction que cela ne lui était pas bénéfique sur le plan éducatif de mener une vie de YouTuber. Ainsi, l'engouement pour Kids YouTube semble-t-il retomber depuis l'an dernier. C'est en tout cas ce que montrent les statistiques établies de manière à recenser les chaînes dont le nom, l'explication ou le tag contient le terme anglais « kids », signifiant « enfant », et aussi qui compte au moins 1000 abonnés ou cumule plus de 10 000 visionnages pour toutes ces vidéos postées. Entre 2014 et 2019, le nombre de nouvelles chaînes en question n'a cessé d'augmenter pour passer de 212 à 575. Mais ce nombre a chuté à 234 en 2020, soit une nette et brusque première baisse en 7 ans. YouTube s'est imposé comme une poule aux œufs d'or. Certains enfants s'en sortaient mieux que de nombreux adultes sur ce segment. En 2019, c'est un enfant qui est arrivé en tête du classement mondial des YouTubeurs les mieux rémunérés. Ryan Keiji, un garçon âgé seulement de 8 ans, a récolté 26 millions de dollars. La même année, en Corée du Sud, une fillette appelée Bolam, âgée de 6 ans, a engrangé tellement d'argent que sa famille a pu acheter un bâtiment dans un quartier branché de Gangnam pour une valeur de 9,5 milliards de won, soit 7 millions d'euros, ce qui a naturellement attiré de nouveaux entrants sur cette plateforme. Mais comment expliquer cette disgrâce ? Eh bien, cela s'explique en fait par deux facteurs démotivants. D'une part, l'opinion négative gagne du terrain en raison des effets pervers. Pour appâter le public, certaines chaînes n'hésitent plus à poster des vidéos très controversées. Par exemple, on pouvait voir la petite sud-coréenne Bolam, dont je viens de parler, voler de l'argent dans le portefeuille de son père ou se mettre au volant de la voiture de ses parents pour conduire toute seule en ville. Évidemment, ces images ont été mises en scène juste pour le plaisir, mais cela a provoqué une vive plus critique. Sur une autre chaîne, on pouvait voir deux enfants jumelles ingurgiter une pieuvre géante pesant 10 kilos. Une vidéo qui frôlait la maltraitance. Un chercheur sud-coréen a analysé 4690 vidéos postées sur une quarantaine de chaînes YouTube dans laquelle des enfants font leur apparition entre juillet 2019 et février 2020. Le résultat est sans appel. Selon son étude, 3,24% d'entre elles contiennent des cas de maltraitance. D'autre part, le géant américain a changé sa politique dans la publicité. Depuis l'an dernier, il n'est plus possible d'acheter des spots publicitaires sur mesure à toute chaîne de Kids YouTube. Celle-ci a désormais droit uniquement à la publicité destinée aux enfants dont les tarifs s'avèrent moins intéressants. Comment se débarrasser des jolis déchets ? Par jolis déchets, il s'agit en fait des récipients des produits de beauté dont 90% d'entre eux sont irrécupérables. Un chiffre qu'a révélé une étude menée par l'Institut de la Santé et des Affaires Sociales de Corée entre octobre 2019 et juillet 2020. L'industrie cosmétique privilégie le côté esthétique. Ainsi, la plupart des récipients sont faits de différents matériaux tels que du verre, des métaux, de la porcelaine et du plastique. Et un tel mélange rend difficile leur recyclage. En conséquence, ils sont classés comme déchets ordinaires et destinés à l'incinération. Indignés par cette réalité, quelques associations civiles luttant pour la cause écologique ont lancé une opération dite « Attaque de la cosmétique ». Ces militants ont tenu jeudi dernier une conférence de presse après avoir empilé un amas de récipients vides devant le siège social de LGHNHC, un des géants du secteur. Ils ont demandé aux fabricants d'assumer ces jolis déchets et de remplacer les récipients actuels par d'autres plus facilement recyclables. Pour mener une telle action citoyenne, ils ont collecté des récipients vides dans 86 magasins de tout le pays du 5 au 21 février dernier, comme des librairies, des cafés, des instituts de remise en forme, de la méthode Pilates, entre autres. Après leur appel sur les réseaux sociaux, ils ont pu rassembler 8000 tubes vides et autres récipients dont le poids total s'élève à 370 kg. Et ce n'est pas encore fini. Une deuxième attaque est programmée en mars prochain. Ces militants espèrent collecter davantage de récipients afin d'expédier à chaque fabricant les lots concernés. Ils réclament la mise en place d'un système de responsabilisation de sorte que les entreprises de cosmétiques récupèrent elles-mêmes les flacons vides des produits de leur marque. Ils demandent aussi de proposer un tel dispositif à travers divers canaux comme les grandes surfaces ou les magasins cosmétiques afin que les consommateurs puissent rapporter les récipients vides. Ces militants appellent aussi les autorités à revoir leur copie. À partir du 24 mars, le pays verra s'appliquer une nouvelle réglementation visant à évaluer le niveau des matières et des structures des emballages ou des récipients. Il s'agit d'indiquer dans quelle mesure il est facile de les recycler. 4 mentions sont prévues. Excellent, bien, assez bien et difficile. Or, le gouvernement a accordé une dérogation aux entreprises qui sont jugées capables d'instaurer d'ici à 2030 leur propre système permettant de récupérer 70% des récipients usagés. L'action civile, elle, demande d'appliquer la nouvelle règle sans aucune exception.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani. Avec la crise du Covid-19, on traverse une rude épreuve. La musique peut nous apporter du réconfort. Un nouvel album est sorti pour cela. Il est intitulé « Printemps de mon pays natal ». C'est le titre d'une fameuse chanson pour enfants qui est transmise depuis plus d'un demi-siècle. L'album est rempli de 16 morceaux de même nature dont les Sud-Coréens connaissent bien la mélodie et les paroles. Sa particularité, c'est que ce nouvel album propose des chansons pour enfants réarrangées par 6 compositeurs de musique classique. L'orchestre Korean Symphony a participé à l'enregistrement, ce qui donne de la profondeur et de la tendresse. Et 2 chanteurs lyriques y ont prêté leur voix. Le jeune ténor John No dit que ses chansons pour enfants ont joué pour lui un rôle d'institutrice. Comme il a émigré très jeune aux États-Unis, il a commencé à chanter ses morceaux pour mieux maîtriser la langue coréenne. Pour la soprano Im Sun-hae, les chansons pour enfants lui rappellent des souvenirs heureux qui la rendent nostalgique, notamment de la famille. L'harmoniste Park Jong-sang a également participé à cette aventure en jouant de l'harmonica. Il a mis un parfum de nostalgie dans ses airs. Pour lui, ses chansons se présentent comme un album de photos en ce qu'elles lui rappellent des souvenirs d'enfance. Cet album se propose de consoler et réconforter tout le monde. Et il pourrait séduire tout le public parce que ses morceaux sont partagés par trois générations allant des grands-parents aux petits-enfants. Avez-vous déjà vu Faust ou Hamlet au théâtre? Même si ce n'est pas le cas, vous devez probablement savoir de quoi il s'agit. Dès qu'on évoque ces deux noms, une image doit apparaître dans votre tête. Un docteur savant pour Faust et un jeune prince tiraillé pour Hamlet. L'un de leurs points communs, c'est que ce sont tous les deux des hommes et de deux œuvres classiques. En Corée du Sud, certaines créations tentent de briser les idées reçues sur les rôles hommes-femmes pour proposer gender-free casting, c'est-à-dire que la distribution des rôles ne dépend pas des sexes définis dans l'œuvre. Dans la dernière représentation théâtrale du classique allemand de Goethe, c'est Kim Sang-nyo, une comédienne caméléone, qui incarne Faust. C'est la première fois qu'une femme joue ce rôle titre masculin dans le pays. Kim se dit avoir été surprise par cette offre, mais elle précise qu'elle n'a aucune difficulté de jouer ce rôle pour représenter deux univers opposés entre le bien et le mal, ou entre la création et la destruction, et pour décrire l'humanité perdue. Certes, il a fallu redéfinir la relation avec Gretchen, la jeune femme dont Faust tombe amoureux, dans l'œuvre d'origine. Mais cette création laisse intact ce lien tout en mettant davantage l'accent sur l'amour maternel, la compassion et l'empathie. Peu importe le sexe, tout le monde peut s'y retrouver. Dans la récente représentation de la pièce de Shakespeare, c'est une autre jeune comédienne talentueuse, Yi Bong-lyon, qui prononce la fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question ». Par contre, c'est un acteur homme qui tient le rôle d'Ophélie, et cela n'empêche pas de sonder pleinement l'univers intérieur d'un être humain. On retrouve la même ambiance sur la scène des comédies musicales. Dans Amadeus, Salieri est à la fois admirateur et jaloux de Mozart, le jeune génie insolent. Et c'est une comédienne qui se met dans la peau de ce compositeur maudit. Ainsi, le spectacle vivant se propose de démolir la barrière des sexes sur les planches. L'administration du patrimoine culturel de Corée a émis une nouvelle collection de timbres commémoratifs en coopération avec la Poste. Cette série est dédiée à quatre objets ou bâtiments du patrimoine culturel qui avaient été illégalement sortis hors du territoire, mais que le pays du matin clair a pu récupérer. D'après les dernières données, 193 000 objets du patrimoine culturel coréen se trouvent à l'étranger dans 21 pays, et parmi eux, seuls 10 838 objets de 12 pays ont pu regagner la Corée du Sud. Pour ces nouveaux timbres commémoratifs, l'administration a sélectionné les quatre objets les plus représentatifs. Selon elle, c'est aussi une façon de rendre hommage à ceux qui ont apporté une grande contribution. Le premier objet a été découvert à Gyeongju, la capitale du royaume de Shinla, lors de fouilles effectuées pendant l'occupation japonaise. Il s'agit d'une tuile de décoration dite sumakse, fermant une rangée de tuiles reliées entre elles sur le toit du bâtiment traditionnel. En général, c'est une fleur de lotus qui est sculptée dessus. Or, la tuile en question portait singulièrement un visage humain souriant. Ainsi a-t-elle été surnommée « Sourire de Gyeongju ». En 1934, un Japonais l'a achetée et il est parti pour l'archipel. En 1972, Park Il-hoon, le président du musée national de Gyeongju, et Osaka Kintaro, ancien patron japonais du musée de Gyeongju sous le joug colonialiste nippon, ont réussi tous les deux à convaincre le propriétaire de ce trésor à en faire don. Le deuxième est une pagode en pierre à 10 étages, haute de 13,5 mètres, qui a été érigée au temple bouddhiste Gyeongchon dans la province de Gyeonggi. Sa sculpture est très fine et a été élaborée pour visualiser le pays imaginaire du Bouddha. En 1907, cette pagode a été illicitement envoyée au Japon, mais le pays du matin clair a pu la récupérer en 1918 grâce aux efforts d'un journal local coréen et ceux de deux Américains, un missionnaire Homer Hulbert et un journaliste Ernest Bettel. Le troisième est un récipient en porcelaine céladon destiné à fournir de l'eau à faire fondre des bâtonnets d'encre en calligraphie traditionnelle. C'est l'unique pièce avec en représentation deux singes, une mère et son bébé parmi les objets du même type datant du royaume de Goryeo. Le grand collectionneur coréen, connu sous son nom de plume Kansong, l'a racheté à un Anglais en 1937. Le quatrième est un sceau en jade de l'impératrice Myeongsang. Il a été repéré par Jo Changsu, qui a travaillé en tant que conservatrice pendant 44 ans au musée national de Smithsonian d'histoire naturelle aux États-Unis. À la nouvelle qu'il allait être mis en vente aux enchères, elle a levé des fonds privés pour le racheter. Et en 1987, elle en a fait don au musée national de Corée.
Nous sommes en mars, le début de la saison verte. Cependant, l'hiver ne semble pas lui céder entièrement sa place. Avant qu'il ne soit trop tard, cette semaine et la semaine prochaine, Saveurs du terroir vous présente des plats des différentes régions qui nous font penser particulièrement à la saison froide. Tout d'abord à Gangneung, une ville portuaire dans la province de Gangwon, à l'est de la péninsule sud-coréenne. Monsieur Kim, qui est le capitaine d'un bateau de pêche sur la mer de l'Est, nous accueille avec les yangmiri. Selon ce sexagénaire, ces poissons de la famille du lançon sont particulièrement abondants en cette période de transition saisonnière. Et justement, les pêcheurs auraient le privilège de déguster les yangmiri tout frais à bord. La chair des yangmiri crue, trempée légèrement dans la sauce de piment rouge et de vinaigre, est d'une saveur simple, incomparable. Il y a une autre spécialité que M. Kim nous présente dès l'arrivée chez lui. Le yangmiri altim, ou l'étouffé des œufs de yangmiri, un menu qui lui rappelle son enfance. En effet, dans le passé, les yangmiri étaient utilisés en tant qu'appât pour pêcher les merlans. En les habillant, on devait enlever leurs œufs et justement, ces derniers n'étaient pas jetés, mais cuits à la vapeur. Avec le changement de l'écosystème marin, on ne peut plus apprécier ce mets bien succulent et nutritif n'importe où, mais il s'agit d'un plat nostalgique de M. Kim. À ce plat, Madame Pax, épouse de M. Kim, ajoute les nouilles Jjangkalguksu à base de bouillon infusé de yangmiri vivant et assaisonné de pâtes de piment rouge. Bien pimenté, ce plat réchauffe le corps contre le vent froid. Déplaçons-nous à Pohang. Cette ville maritime située dans la province de Gyeongsang du Nord est reconnue notamment pour sa spécialité culinaire, kwamegi. Il s'agit d'un délice d'hiver fait de poissons comme tango et conti, séchés sous la brise marine quelques jours après les gels et dégels répétitifs. On consomme aujourd'hui le conti kwamegi à base de balao du Pacifique, mais le véritable kwamegi étant celui de tango ou hareng, selon les autochtones de cette ville, on peut y déguster, si on a la chance, ce mets précieux. Pour Madame Kim, le tango revêt une signification particulière. En effet, quand elle était petite et qu'il n'existait pas même les techniques pour habiller le kwamegi, son père le faisait avec le tango séché sous le toit. Chaque fois qu'il lui manque, Madame Kim prépare divers plats à base de hareng et de conti. On fait cuire les œufs de hareng en assaisonnant simplement avec la sauce de soja, la poudre de piment rouge et l'ail écrasé. Cela devient l'étouffé tango al-chulim. Accompagné au riz cuit à la vapeur, cela devient un vrai voleur de riz. Avec le conti, elle prépare la soupe conti wanjakuk, le plat le plus aimé de son père. Elle commence par broyer les contis en entier, même les arêtes. Ensuite, elle assaisonne les pousses de soja et le navet préalablement cuit à la vapeur avec la pâte de soja fermentée doenjang et la poudre de piment rouge avant de les tremper dans le bouillon. Ensuite, on ajoute les boulettes de contis. Bien profond, ce plat infusé d'ingrédients nutritifs réchauffe le corps et console l'âme. Le conti sec kwamegi peut également être utilisé pour préparer les spaghettis à la coréenne. Dans l'huile d'olive, on ajoute le kwamegi coupé en petits morceaux et de l'ail pour dégager l'odeur particulière du poisson avant d'y mettre des spaghettis. D'une saveur exotique, ce kwamegi pasta est non seulement apprécié des Coréens mais également des étrangers. La semaine prochaine encore, Saveur du terroir vous fera voyager dans les différentes régions du pays du matin clair pour découvrir les délices de cette saison.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Ho Ha-young à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.